Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Des scènes de guérilla urbaine sous l'arc de triomphe à Paris hier. Journée de mobilisation des gilets jaunes qui a encore dégénéré. Des affrontements violents ont eu lieu entre manifestants, forces de l'ordre et casseurs. Alors ce matin, un groupe de figures du mouvement se propose d'être porte-parole autour d'un projet viable et crédible selon leurs mots, alors que le gouvernement n'exclut pas d'instaurer l'état d'urgence. Analyse en direct avec Anne Fauquemberg dans ce journal. Emmanuel Macron qui a condamné ces violences depuis le G20 en Argentine. Le sommet qui réunit les 20 plus grandes puissances économiques du monde s'est achevé hier à Buenos Aires. Nous ferons le bilan avec Marie Viennot dans un instant. C'est la COP24 qui s'ouvre aujourd'hui, la conférence internationale sur le climat. Elle se tient en Pologne, dans la ville de Katowice, le pays qui utilise encore les centrales à charbon, très fortement émettrices de gaz à effet de serre et de particules polluantes. Reportage en Pologne dans ce journal. À Paris, des scènes d'affrontements sous l'arc de triomphe mêlant gilets jaunes, casseurs et forces de l'ordre. Canons à eau, gaz lacrymogène et grenades assourdissantes, des voitures brûlées et même un hôtel particulier incendié. Hier, les images des Champs-Élysées ont tourné en boucle. En tout, 287 interpellations, 110 blessés dont 20 chez les forces de l'ordre, alors qu'un gilet jaune est toujours dans un état critique en ce moment. En tout, près de 100 000 personnes auraient manifesté hier un peu partout en France, dont près de 10 000 à Paris, selon les forces de l'ordre. La préfecture du Puy-en-Velay aussi a été incendiée hier. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour Sophie.
Alors ce matin, dans le JDD, le journal du dimanche, quatre figures des Gilets jaunes appellent au calme et prônent le dialogue avec l'exécutif.
Oui, sur une page Facebook qui porte le nom des Gilets jaunes libres, ils sont quatre figures connues, mais 10 au total, 10 porte-parole à lancer donc cet appel à une colère constructive dans le journal du dimanche. Ces porte-parole dressent la liste de leurs revendications, bien souvent synonyme de plus de participation citoyenne. L'ouverture d'états généraux de la fiscalité, l'organisation de référendums réguliers sur les grandes orientations sociales et sociétales du pays, ou encore l'adoption du scrutin proportionnel pour les élections législatives. Parmi ces porte-paroles, on peut citer la Bretonne, Jacqueline Mourot, ou le Toulousain, Benjamin Cauchy, qui était il y a quelques minutes chez nos confrères de France Info.
Je pense être avec des milliers et des milliers de gilets jaunes un rempart avant une dissolution de l'Assemblée nationale. Parce que clairement, si le gouvernement n'agit pas et ne change pas sa feuille de route, eh bien clairement, la crispation va être de plus en plus forte.
Voilà, rien que ça, Sophie, être un rempart pour la France. Benjamin Cauchy qui a aussi créé cette semaine pour la petite histoire le mouvement Les Citrons Jaunes, mouvement qui se décrit comme le premier parti politique des sans-voix et des sans-culottes. Mais une personnalité contestée. On le voit avec les commentaires des autres gilets jaunes sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple. Une internaute s'exprime, elle dit « Benjamin Cauchy qui parle, on dirait que son mouvement les gilets jaunes libres sont meilleurs que les autres. On sent bien que son expérience politique est militante et prépondérante avec un smiley pas content. »
Anne Fauquemberg, vous étiez hier sur les Champs-Élysées. La plupart des gilets jaunes continuent d'être dans la plus pure contestation.
Oui, voilà, c'est vrai, sans ambiguïté. C'est ce qui se dégageait des témoignages hier dans la manifestation autour des Champs-Élysées. Pierre est venu du département de l'Essonne. Son but, c'était clairement de faire grossir la contestation. Preuve en est le voue d'interpellation utilisé par ce jeune homme au micro lors de l'interview.
Si on voulait faire de l'écologie, on ferait des transports en commun dans les zones rurales, on enlèverait les emballages dans les grandes surfaces. Vous êtes aveuglés, réunissez-vous ensemble. Macron, il est tout seul avec une petite bande de gouvernement. Il faut les sortir. La 5e République, c'est terminé. Le peuple en veut plus. On sort de la 5e République. On est en train de s'organiser. Croyez pas que les gilets jaunes, c'est fini. Dans deux semaines, peut-être qu'on n'en parlera plus. Les réseaux, ils existent. Les gens, ils communiquent entre eux. On fait des réunions, on s'organise. On voit des gens des élus. On communique, on a des gens de la politique. On parle entre nous. Les militaires aussi. Et tous ces gens-là, ils sont avec nous.
Voilà, des manifestants toujours déterminés. Donc, reste à savoir quel regard vont porter les Français sur les événements de ce week-end et surtout s'ils seront toujours 80% à soutenir le mouvement.
Merci Anne Fauquemberg. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, annonce ce matin que le gouvernement étudie toutes les options pour éviter de nouvelles scènes d'émeutes, y compris la possibilité d'instaurer l'état d'urgence. Depuis l'Argentine hier et le sommet du G20, Emmanuel Macron a lui aussi pris la parole.
Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés, que des passants ou des journalistes soient menacés ou que l'Arc de Triomphe soit souillé. Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement. Ils veulent le chaos. Ils trahissent les causes qu'ils prétendent servir et qu'ils manipulent. Je respecterai toujours les contestations, mais je n'accepterai jamais la violence.
Emmanuel Macron, le chef de l'État, a décidé hier de convoquer une réunion d'urgence à l'Élysée aujourd'hui en présence du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et du Premier ministre, Édouard Philippe, qui a annulé sa venue à la COP24, la conférence sur le climat en Pologne aujourd'hui. Bien difficile pour les partis politiques de jouer leur rôle traditionnel de prise en compte, de relais des aspirations venues du terrain. Que dire? Comment réagir? Jean-Luc Mélenchon, hier, le chef de file de la France Insoumise, a annoncé que en démocratie, on vote, soulignant donc qu'une dissolution de l'Assemblée nationale pouvait être une option. Marine Le Pen du Rassemblement national n'a pas défilé hier. Elle est à peu près du même avis que Jean-Luc Mélenchon. Laurent Wauquiez, président de Les Républicains, lui, veut un référendum, notamment sur les taxes instaurées par le gouvernement. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, il se contente, lui, d'en appeler à la démission de Christophe Castaner. France Culture, il est 9h06. C'est une trêve dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Donald Trump a annoncé qu'il allait maintenir à 10% le taux du droit de douane sur 200 milliards de dollars de produits importés chinois, au lieu de porter ce taux à 25% au 1er janvier. Une annonce qui survient à l'issue du G20, le sommet des 20 plus grandes puissances économiques, dont Marie Viennot nous dresse le bilan.
Plutôt que de donner une direction à la mondialisation qu'ils incarnent, eux qui pèsent 85% de la production mondiale, les pays du G20 ont décidé de ménager la chèvre et le chou. Sur le commerce, ils actent que le système actuel est défaillant, mais ils soutiennent la nécessaire réforme de l'Organisation mondiale du commerce, dont ils jugeront les progrès au prochain G20 au Japon. Ainsi, ont pu être évitées toute référence au protectionnisme, aux tensions commerciales déclenchées par les États-Unis ou aux pratiques déloyales de la Chine, comme les transferts forcés de technologies contre lesquels les Américains et les Européens ont porté plainte il y a quelques mois. Comme le souhaitait Donald Trump, le mot « immigration » n'apparaît pas dans le communiqué final. Seule figure une référence aux réfugiés pour lesquels les membres du G20 soulignent l'importance de coordonner leurs actions. Sur le climat, les États-Unis font bande à part, comme ils l'avaient fait au G20 de Hambourg. Ils réaffirment leur retrait des accords de Paris, alors que les 19 autres membres promettent de renforcer leurs efforts. Mais même cette coalition devient fragile, alors pour satisfaire les pays qui continuent de développer le charbon ou le pétrole, le texte du G20 reconnaît qu'il y a différentes sources d'énergie et que les stratégies nationales pour protéger l'environnement sont diverses. Un accord vague vaut mieux donc que pas d'accord du tout. C'est surtout ça le consensus obtenu à ce G20, mais au moins personne n'est-il parti fâché, ce qui n'était pas acquis du tout au départ.
Marie Viennot, envoyée spéciale de France Culture à Buenos Aires. Direction maintenant la Pologne, où la COP24, la conférence internationale sur le climat, ouvre ce matin dans la ville de Katowice. Un choix de ville d'accueil qui peut sembler paradoxal, car cette ville se trouve au cœur d'une des régions européennes où l'on respire le plus mal, une qualité de l'air plombée par le chauffage au charbon, toujours majoritairement utilisé sur place, avec du charbon extrait des mines de la région qui alimente le smog, ce nuage polluant qui fait près de 50 000 morts en Pologne chaque année. Et sur place, les habitants ne sont pas tous conscients du danger. Reportage à Katowice de Thomas Giraudot.
Pour se protéger de la pollution, les habitants peuvent porter des masques comme ceux distribués ici sur une place de marché de Katowice. Alexandra, une jeune étudiante, en tient un dans ses mains.
C'est parfois difficile de respirer ici, ça sent très mauvais, c'est mauvais pour notre peau. Même quand on ne porte pas de maquillage, parfois on rentre chez soi et on a beaucoup de poussière sur le visage.
Si cette étudiante est consciente du smog et de ses dangers, d'autres habitants sont beaucoup moins réceptifs au discours de Sébastien, un militant environnemental.
La majorité des gens ne sait pas que le smog est toxique, ou ils pensent qu'il n'y a carrément pas de smog à Katowice, parce que cette ville a une grande histoire industrielle, des mines de charbon, l'air a toujours été pollué, mais le gouvernement n'en a pas du tout parlé pendant des années.
Les pollueurs, ce sont eux. 80% des habitants de la région se chauffent encore au charbon. Le minerai est polonais, pas cher, et dans un poêle, on peut aussi brûler ses déchets pour se chauffer. Beaucoup d'avantages pour Grzegorz.
Les autres énergies ne sont pas très sûres, comme le gaz qui vient de Russie. On n'a pas de garantie qu'il sera encore accessible dans quelques temps, car il y a des tensions entre nos deux pays.
Pourtant, Grzegorz a essayé de moins polluer, changer son mode de chauffage en bénéficiant d'un grand plan du gouvernement. Mais les procédures sont compliquées et les remboursements trop faibles.
Thomas Giraudot en Pologne pour France Culture. Alors qu'on apprend à l'instant un nouveau bilan des violences à Paris pendant la manifestation des Gilets jaunes, 412 interpellations, 378 personnes placées en garde à vue selon la préfecture. La météo, de la pluie presque partout, du soleil seulement sur la Corse et la Côte d'Azur et des températures comprises entre 4 et 17 degrés.